mille nuances à apporter, mais il me semble bien que malgré les ruptures du XVIe siècle, malgré les évolutions du XVIIe et du XVIIIe siècle, malgré les transformations de l'âge industriel, nous, c'est-à-dire nous, gens d'Occident, de culture judéo-chrétienne, nous nous mouvons dans des structures héritées du XIIIe siècle. Alors évidemment, comme un certain nombre de choses que je vais dire, il y a beaucoup de polémiques dans mes propos, et chacun triera le bon grain de l'ivraie. L'Occident est alors, donc au XIIIe siècle, pleinement chrétien, comme l'affirment symboliquement les cathédrales gothiques. Mais l'introduction massive du corpus des œuvres d'Aristote, on a pu parler d'une crue de l'aristotélisme, et des auteurs musulmans comme Avicenne et Averroès, ou juifs comme Maïmonide, oblige le monde intellectuel chrétien à une confrontation entre une pensée non chrétienne et le christianisme. Ce qui permet de fonder une théologie définie comme science, et par là même une exégèse scientifique de la Bible. La conséquence étant non seulement un approfondissement de la réflexion doctrinale, mais aussi, indirectement, la naissance de ce que nous appelons les sciences humaines, dont la politique. Je soutiens en effet la thèse que toutes les sciences humaines, en tant que discipline autonome, existe parce qu'il a existé une science théologique. Bon, mais c'est un autre sujet, évidemment. Le XIIIe siècle s'ouvre, si l'on peut dire, par le concile de Latran IV, 1215. Ces statuts sont d'une richesse infinie, mais ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois le constat qu'il fait des déficiences de la société chrétienne et les voies qu'il ouvre pour y remédier. Déficience de la société chrétienne. Les pasteurs n'assurent plus leur rôle, ce qui entraîne la multiplication des dissidences, aussi bien internes, comme les Vaudois, qu'externes, comme les Cathares. Comme à l'époque de Paul, ceux qui diffusent ces doctrines s'introduisent dans les demeures et séduisent les esprits qui, ou bien ne reçoivent plus d'enseignement de la part de l'organisation ecclésiastique, ou bien sont déçus par ce qu'ils entendent. Mais les remèdes sont là. Au moins dans les grandes villes, l'enseignement se structure et se développe. Succédant aux écoles urbaines, naissent les universités. On y reviendra. L'autre remède est évidemment ce qui est les ordres mendiants, dominicains et franciscains surtout, qui naissent également à ce moment et veulent apporter des réponses aux déficiences de la prédication pour les dominicains, ou prôner, essentiellement par l'exemple, le retour aux valeurs authentiques de l'Évangile pour les franciscains. J'insiste volontairement sur cette différence entre dominicains et franciscains, mais nous allons le voir, en peu de temps, les deux ordres mendiants vont avoir les mêmes objectifs et mettre en jeu les mêmes moyens, la nécessité d'un enseignement structuré étant rapidement comprise du vivant même de saint François. Dans cet enseignement, la place majeure revient à la Bible, mais elle n'est pas seulement objet d'étude, surtout chez les franciscains, puisqu'elle est pour eux source de vie, référence perpétuelle de la pensée et de l'action. Comment est-elle comprise et étudiée par saint François et par ses frères? Plusieurs études ont été consacrées à cette question, parmi lesquels donc le supplément au cahier évangile dont on a parlé tout à l'heure, qui est un petit peu le prétexte de notre rencontre de ce soir. Alors nous allons parler un petit peu de saint François lui-même et la Bible. Il est question d'études, d'exégèse, d'enseignement. Cela ne pose pas de problème pour les générations qui suivent celle du Poverello. Une tradition solide d'enseignement et d'exégèse de la Bible s'est vite mise en place et les savants franciscains d'aujourd'hui se réclament de cette tradition et assument totalement cette apparente transformation des premiers idéaux. Mais qu'en est-il de saint François lui-même? À lire les écrits qui lui sont attribués, on est tout de suite frappé par ce qu'il convient d'appeler son imprégnation biblique. Non seulement le saint se réclament des idéaux de l'Évangile, mais encore ne cessent-ils de se référer constamment à l'Écriture sainte. J'ai compté, bon, le calcul a été fait avant moi, je me suis rendu compte de cela après, y compris dans le supplément. Enfin bon, c'est toujours intéressant de faire par soi-même des travaux bêtes comme cela. Alors j'ai compté 153 citations ou allusions pour l'Ancien Testament et 271 pour le Nouveau Testament. Ce qui est important, étant donné finalement le caractère relativement restreint du corpus des écrits de saint François. Si certains livres bibliques n'apparaissent pas, comme les livres historiques de l'Ancien Testament ou le Cantique des Cantiques, il semble bien que François connaisse toute la Bible. Par exemple, les épîtres pauliniennes sont toutes citées. On ne sera pas étonné que les psaumes 110 citations et les évangiles 68 citations pour Matthieu, 10 pour Marc, 58 pour Luc, 29 pour Jean, soient les livres les plus mis à contribution. Comment François a-t-il acquis cette connaissance ? Alors il faut bien se rendre compte, et j'insisterai à plusieurs reprises dans mon exposé sur ce point-là, il faut bien se rendre compte que nous sommes aujourd'hui dans un schéma à l'époque de saint François, dans un schéma très différent de ceux que nous imposent aujourd'hui nos habitudes intellectuelles. À plusieurs reprises, François se définit, bon ça vous le savez bien, comme idiota, hein, illettré. Mais il ne l'était pas. La part de l'oral, y compris dans le cadre de la liturgie, est sans doute grande dans sa formation, mais il ne faut pas négliger celle de la lecture. Non pas une lecture rapide, cursive, comme quand on lit un roman aujourd'hui, mais une lecture lente, qui savoure le texte, le rumine et l'assimile intimement. C'est encore la manière dont les textes sont lus dans les milieux traditionnels, et cela rappelle bien entendu la lecture monastique de la Bible au Moyen-Âge. Il convient sans doute de lire ce beau passage de la Legenda Maior de Bonaventure sur la connaissance des Écritures par saint François. Alors j'utilise l'ancienne édition, l'ancienne traduction formée avec cela. Je reste fidèle à mes livres. Alors, Bonaventure, Legenda Maior, chapitre 11. Par son application constante à la prière et par sa pratique des vertus, l'homme de Dieu, François donc, était parvenu à une telle limpidité d'âme que sans avoir acquis par l'étude de la connaissance des saints livres, mais éclairé par les rayons de la lumière éternelle, il pénétrait pourtant avec une étonnante acuité jusqu'au plus profond des Écritures. Son esprit, pur de toute souillure, trouvait l'accès des mystères cachés et son amour impétueux s'ouvrait les portes devant lesquelles piétine la science des maîtres. L'imprégnation est décrite dans ce passage. Ce que son intelligence avait saisi, sa mémoire le retenait indélébilement gravé. Elle explique la forme particulière que Marcel Durer, dans le supplément, étudie et qu'il appelle « senton », donc des successions de fragments de passages bibliques. Mais le texte de Bonaventure nous livre un autre renseignement. François connaît la Bible et va jusque dans ses profondeurs avec une étonnante acuité. Question, François, exégète de la Bible. Point d'interrogation. Bon, évidemment, vous allez dire, non, ce n'est pas un professeur d'université, ce n'est pas un professeur qui a enseigné dans les studias, ce n'est pas un maître qui a eu des disciples autour de l'enseignement de la Bible. Mais la réponse est oui. C'est quelqu'un qui explique la Bible comme un prédicateur. Là encore, il faut bien entrer dans une approche traditionnelle de l'Écriture. Message divin, la Bible a besoin constamment d'être expliquée, d'être mise à la portée des hommes, génération après génération. On reviendra également sur ce point tout à l'heure. Et c'est de cette manière que François est exégète, comme l'avait été saint Bernard. Je l'ai montré dans une étude précédente. Du reste, la Vita Secunda de Thomas de Celano nous livre précisément le témoignage d'une séance d'exégèse biblique à partir d'un verset d'Ézéchiel 3:18. Vous connaissez tous bien sûr ce passage. « Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et si tu ne l'avertis pas, Si tu ne parles pas au méchant pour le mettre en garde contre sa mauvaise conduite, afin qu'il vive, il mourra de son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de son sang. » Voilà un passage difficile apparemment, et voici ce que nous dit à ce sujet Thomas de Celano. Pendant le séjour du bienheureux à Sienne, arrive aussi dans cette ville un frère prêcheur, homme surnaturel et docteur en théologie. Il rendit visite au bienheureux François et eut avec lui une longue et bienfaisante conversation sur les paroles du Seigneur. Il l'interrogea aussi sur cette parole d'Ézéchiel : « Si tu n'avertis pas le méchant de son impiété, je te demanderai compte de son âme. » Or, ajouta-t-il, j'en connais beaucoup qui sont en état de péché mortel, et je ne les avertis pas toujours de leur impiété. Devrais-je donc rendre compte de leurs âmes ? Le bienheureux François protesta qu'il n'était qu'un ignorant, encore une fois le terme idiotat, et que c'était à lui d'être instruit par le frère plutôt que de donner son avis sur un passage d'écriture. « Mon frère, dit alors le maître, avec humilité, j'ai entendu plusieurs savants déjà expliquer ce verset, mais je recevrai volontiers ton avis sur ce point. Si le verset, répondit le saint, doit recevoir son sens le plus large, voici comment je l'entends. Le serviteur de Dieu doit entretenir un tel feu en lui, par la sainteté de sa vie et le parfum de sa réputation, qu'ils seront tous avertis de leur iniquité. Le maître s'en alla très édifié. Il dit aux compagnons du bienheureux, « Mes frères, la théologie de cet homme possède l'essor de l'aigle et plane sur les deux ailes de la pureté et de la contemplation, tandis que notre science, collée au sol, se traîne sur le ventre. » Un passage magnifique, admirable, donc, et qui montre, je crois, que François est exégète. Contrairement à ce qu'indique la note de Damien Voreux, donc le traducteur et l'annotateur de ce texte, il ne s'agit pas d'une exégèse classique. Du reste, avant le XIIIe siècle, Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, est peu commenté, et ce sont les homélies de Grégoire le Grand qui donnent l'interprétation qui s'impose. Ici, il s'agit de la 11e homélie sur Ézéchiel, Grégoire insiste sur les devoirs des supérieurs, prélati, à l'égard des inférieurs, subjecti, et donc de la responsabilité des prédicateurs. Bon, ça va de soi d'une certaine manière. Bon, Grégoire l'explique d'une manière très belle, très satisfaisante. La glose ordinaire, donc, qui est le commentaire standard au XIIe siècle de la Bible, reprend le texte de Grégoire. La même idée domine le commentaire du dominicain Hugues de Saint-Cher, rédigé entre 1230 et 1235, qui ajoute divers raffinements. Il me semble que l'interprétation de François est nouvelle. C'est par sa conduite exemplaire que l'on doit avertir les autres de leur iniquité. Et de la sorte, donc, ne pas être redevable du sang d'autrui. C'est là le grand problème. Le pasteur, si bon soit-il, ne peut pas prévenir tout le monde de sa mauvaise conduite. Alors comment faire ? Donc voilà, il suffit, nous dit saint François, donc, et ça résout d'une manière magnifique le passage biblique, donc il suffit de donner le bon exemple. Alors, je note que Cornelius a lapidé, hein, donc il y a un auteur du XVIIe siècle, un jésuite du début du XVIIe siècle, qui est très intéressant parce qu'il résume toute la tradition exégétique depuis les Pères jusqu'au XVIe siècle inclus. Alors donc, Cornelius a lapidé cite, dans le commentaire du livre d'Ézéchiel, cette explication de saint François qu'il qualifie de tropologique. On pourrait également citer comme exemple l'exégèse de saint François son commentaire du Pater ou Louange du Seigneur. Bien que l'on considère ce texte comme une paraphrase ou comme une prière farcie, donc un genre littéraire commun au XIIe, XIIIe siècle, on ajoute des développements à un texte donné, donc une prière farcie, les éléments exégétiques me paraissent importants. Une étude précise de ce point de vue serait à faire, mais je relève par exemple l'explication de « qui est aux cieux » par « dans les anges et dans les saints ». Il n'y a pas ça dans le texte. C'est une exégèse. C'est une exégèse, bon, intelligente également, autant qu'on puisse prononcer là-dessus. Ou bien l'exégèse de « que ton nom soit sanctifié ». Alors, que ça veut dire que ton nom soit sanctifié ? Bon. On vient de publier un livre sur le Notre Père au XIIe siècle. Donc voilà, il y a des tas de choses. Donc, voilà, ce nom, que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas d'une évidence extrême, puisque bon, le nom du Seigneur est sanctifié par lui-même. Il n'y a pas besoin que les hommes le sanctifient. François explique de la manière suivante, que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de toi. Évidemment, le ton est plus celui de la prière que celui de l'exégèse, mais l'une n'est pas exclusive de l'autre. François pratique et connaît la Bible d'une manière intime, je le redis, à la manière des moines du XIIe siècle. Très rapidement, l'ordre naissant des franciscains connaît un succès tel qu'il est nécessaire que soient mises en place des structures susceptibles de rendre possible le fonctionnement d'une communauté qui n'est plus une poignée d'hommes, mais déjà une foule nombreuse et dispersée dans des localités de plus en plus nombreuses. On connaît le rôle du cardinal Hugolin à cet égard. Les premières règles vont organiser la vie des frères, mais très tôt, se pose le problème des études du fait notamment de l'adhésion aux idéaux énoncés par saint François de clercs formés, donc de savants qui ont été à l'école, à l'université, etc. Si pour le saint, la science n'est pas l'un des moyens d'action majeurs de son ordre, il est vite confronté au problème. Alors, je relèverai pour le plaisir, espérant que je ne vais pas choquer les bons pères franciscains ici présents, je relèverai donc la remarque du père Gratien dans son ouvrage magnifique, irremplaçable, sur l'histoire de la fondation et d'évolution de l'ordre des frères mineurs au XIIIe siècle, page 87. Alors voici ce que dit le père Gratien. C'est un fait. Saint François n'a pas été le promoteur du mouvement scientifique dans sa famille religieuse. Comment expliquer une pareille attitude chez un homme d'une intelligence si large, d'un esprit si élevé? Évidemment, pour les franciscains du XXe siècle, qui sont des gens savants, instruits, etc., bon, c'est quand même étonnant que saint François, doué, etc., n'ait pas lui-même dit « voilà, il faut absolument étudier ». Donc, comme vous le savez, il y a eu une attitude un petit peu réservée à propos de ça. Mais le père Gratien montre bien que François n'est pas opposé à la science, mais aux abus qui peuvent en découler. La courte lettre à Antoine de Padoue dit cela d'une manière très précise et sans ambiguïté. Alors bon, elle est traduite dans le supplément. Bon, je vais, voilà. Au frère Antoine, mon évêque, bon, on ne va pas commenter, hein, sinon on n'en sortirait pas. Hein, donc, frère François, salut. Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères. Alors, que tu lises la théologie sacrée, ça veut dire que tu enseignes la Bible. Que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu que, dans l'étude de celle-ci, tu n'éteignes pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion, comme il est contenu dans la règle. Va bien. Bon, traduction. On peut également lire ce passage des admonitions de saint François, donc lui-même, qui commente 2 Corinthiens 3, 6. Bon, j'ai lu, c'est donc 2 Corinthiens 3, 6, c'est « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. La lettre tue ceux qui ne veulent apprendre et expliquer que des mots, et cela uniquement pour paraître plus savants que les autres, et pouvoir acquérir ainsi de grandes richesses dont ils feront profiter leurs parents et amis. La lettre tue les religieux qui ne veulent pas suivre l'esprit de la Sainte Écriture, mais qui s'en tiennent uniquement aux mots dont ils transmettent aux autres l'interprétation. L'esprit de la Divine Écriture fait vivre ceux qui n'attribuent pas à leur valeur personnelle la science qu'ils possèdent ou qu'ils désirent posséder, mais qui, par la parole et par l'exemple, en font hommage au Très-Haut Seigneur à qui appartient tout bien. » Voilà donc les excès de l'étude dénoncés très rapidement, en même temps que la manière dont il faut se comporter. La lettre à Antoine de Padoue est très significative. Antoine arrive dans l'ordre avec une formation intellectuelle extrêmement solide qui permet de le mettre sur le même plan que les meilleurs des maîtres contemporains comme Étienne Langton, Philippe le Chancelier ou Guillaume d'Auvergne. Il ressent bien la nécessité de structures d'enseignement solides et efficaces, tant pour former les cadres de l'ordre que pour enrichir la prédication et fournir des armes contre l'hérésie. François cède donc à cette demande. Et en peu de temps, des structures sont mises en place et un enseignement de qualité est donné. Je renvoie à l'étude de Sophie Delmas dans le supplément pour l'histoire de cette organisation et les textes majeurs des différentes constitutions. Je noterai seulement qu'il y a trois niveaux dans ces établissements d'enseignement auxquels on donne le nom générique de Soudia. Alors, les qualificatifs qu'on emploie pour les désigner, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est pas standardisé. Donc, j'ai employé des dénominations. Vous en rencontrerez dans certaines études d'autres. Alors, il y a les studia locaux ou préparatoires qui sont destinés à fournir les rudiments de la culture. Alors, ce qu'on ne dit pas assez souvent, commencer par l'alphabétisation. On apprend à lire, hein, tout bêtement. Il n'y a pas d'école primaire obligatoire au XIIIe siècle. Bon, c'est ça, ça va être l'enseignement primaire obligatoire des franciscains, bon, dans les studia. Mais, alors, on ne se limite pas au béaba, si je puis dire, puisque ces studia vont jusqu'à l'enseignement de la logique et de la philosophie naturelle. Il y a ensuite les studia provinciaux, donc c'est un niveau supérieur, qui sont consacrés surtout à la théologie, et enfin les studia generalia, qui accueillent l'élite des étudiants, et dans plusieurs cas, comme à Paris, sont liés à l'université. Du reste, le maître qui enseigne dans le studium generale est ipso facto régent à la faculté de théologie. La situation se crée d'une manière spontanée avec l'entrée dans l'ordre des mineurs d'Alexandre de Halès en 1236, qui est, avant son entrée même, un maître reconnu à Paris, donc il enseignera en tant que franciscain jusqu'à la fin de ses jours. Dès lors, une chaire est réservée aux franciscains à la faculté de théologie de Paris. Des maîtres tels que Jean de La Rochelle, Eudrigo, Guillaume de Méliton et Bonaventure succèdent à Alexandre. L'enseignement à la faculté de théologie, et donc dans les studia generalia, comprend deux axes. D'une part, la Bible, dont nous allons nous occuper, d'autre part, les sentences de Pierre Lombard. Attendez, alors je m'aperçois avec effroi que ma montre s'est arrêtée. Donc, vous me ferez signe 10 minutes avant la fin.
Une bonne demi-heure.
Oh oui, d'accord. Donc, effectivement, elle indique n'importe quoi. Bon, très bien. Pardon pour cette interruption-là. Donc, d'une part la Bible, d'autre part les sentences de Pierre Lombard, donc qui est un manuel de théologie, si on va dire. On ne va pas rentrer aussi dans des explications très détaillées là-dessus. L'enseignement biblique se fait à deux niveaux. Premier niveau, envisage la lecture de la Bible cursorier, c'est-à-dire implique une lecture cursive, hein, on lit cursivement la Bible, d'un ensemble important de livres. Alors il ne semble pas que la lecture en 2 ans de l'ensemble de la Bible, qui est décrite dans divers sites universitaires, corresponde à la réalité. C'est beaucoup trop pour être fait en 2 ans, me semble-t-il. Le texte est lu. Les principales difficultés philologiques, historiques, narratives, doctrinales sont relevées au passage. Cet enseignement est dans le droit fil de l'enseignement des écoles, notamment parisiennes, à la fin du XIIe siècle. Cet enseignement est assuré par les bacheliers formés qui jouent le même rôle qu'actuellement nos assistants ou attachés, donc dans le jargon universitaire actuel, attachés d'enseignement, attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Effectivement, le bachelier formé est attaché temporaire, puisqu'après on espère qu'il va être maître d'enseignement et de recherche. Voilà. Bon, même chose. Donc, j'avais toujours employé assistant ou maître assistant, mais j'ai découvert quand même que à terre c'était beaucoup mieux pour les bacheliers formés. Alors le second niveau est celui de l'enseignement magistral. Seuls quelques livres bibliques, voire un seul, sont choisis pour l'année. À partir de la fin du XIIIe siècle, il semble que le maître ne commente que quelques passages qui présentent un intérêt doctrinal. Mais pendant tout le XIIIe siècle, les livres bibliques sont intégralement commentés. On notera que nous trouvons les deux niveaux dans les commentaires de Pierre de Jean Aulieu. Alors donc c'est l'un des grands maîtres, l'un des grands auteurs, l'un des grands exégètes franciscains de la seconde moitié du XIIIe siècle, bon, qui a une histoire absolument passionnante, hein, qui va prendre parti pour l'usus pauper, donc et va être impliqué dans les querelles avec les spirituels à la fin du XIIIe siècle. Donc bon, il mourra entouré de la plus grande estime, y compris au niveau de la communauté franciscaine. C'est après effectivement qu'un culte peut-être exagéré sera rendu à sa mémoire, et c'est à ce moment-là effectivement que vont éclater toutes les grandes discordes à l'intérieur de l'ordre franciscain. Bon, c'est une histoire passionnante, mais c'est encore un sujet différent. Voilà. Bien. Donc, alors bon, donc comme j'aime beaucoup Pierre de Jean Hoelieu, je vais le citer un certain nombre de fois, donc, en notant qu'il a enseigné notamment à Florence et à Montpellier. Mais comme c'est un personnage d'une grande modestie, il n'a pas voulu, après son enseignement à Paris, enfin l'enseignement qu'il a suivi à Paris, il n'a pas voulu recevoir le titre de maître. Donc ce n'est pas un maître, donc un professeur d'université, c'est quelqu'un qui en sait beaucoup plus que beaucoup de professeurs d'université, mais qui se considère comme un simple frère. Bel exemple. Bien. Alors donc, dans ces commentaires, on trouve les deux niveaux, aussi bien des commentaires qui correspondent au premier degré dont j'ai parlé, par exemple les commentaires des 12 prophètes ou les commentaires des Lamentations. Ils correspondent à un enseignement des studia provinciaux, tandis que les commentaires de la Genèse ou d'Isaïe sont des commentaires magistraux. Même s'ils n'ont pas été enseignés dans une faculté de théologie, ils offrent la matière de commentaires magistraux, enfin d'une qualité remarquable. La structure même de la leçon biblique est intéressante, on y reviendra tout à l'heure. Alors nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, et envisager la manière dont la Bible est étudiée, y compris c'est avant le XIIIe siècle, et au début du XIVe, parce qu'il me semble indispensable de parler de Nicolas de Lyre. Alors cette parenthèse insiste sur l'enseignement que vous devez me prévenir quand on approchera de la fin, non pas des temps, mais de la conférence. Alors évidemment, la première question que l'on doit se poser est de savoir s'il existe une exégèse spécifiquement franciscaine au Moyen-Âge. On pourrait poser la même question à propos de l'exégèse des dominicains, et nous l'avons posée lors d'un colloque tenu en 2007, organisé avec Annie Noblesse, qui est ici présente, nous l'avons posée à propos de l'exégèse monastique. Y a-t-il des traits? Alors, on pressent quand on lit tous ces textes, des textes dominicains, des textes franciscains, des textes monastiques, bon, on voit d'une manière intuitive qu'il y a un certain nombre de différences, mais comment les formaliser? Dans tous les cas, il y a des caractères communs. Les traits spécifiques sont plutôt rares, il s'agit presque toujours de l'importance accordée à un trait que l'on retrouve ailleurs. Je ne répondrai à cette question d'une spécificité de l'exégèse franciscaine que dans ma conclusion. Je décrirai les caractères majeurs que l'on perçoit dans les commentaires franciscains du XIIIe et du début du XIVe siècle. Ils ne sont pas spécifiques aux auteurs que je vais utiliser. Alors tout d'abord, alors ça c'est une chose sur laquelle j'insiste bien, le trait majeur de l'exégèse chrétienne du XIIIe siècle est qu'elle est à la fois confessante et scientifique. C'est un fait extrêmement important sur lequel l'exégèse contemporaine commence enfin à s'interroger, bien entendu passage polémique, comme j'aime bien, commence à s'interroger depuis peu, c'est-à-dire depuis 20 ans ou 30 ans. Notamment à la suite des documents du magistère pontifical, notamment le document de la commission biblique pontificale intitulé « L'interprétation de la Bible dans l'Église » qui date de 1993, un document remarquable, extrêmement important, et donc qui je crois, a incité les exégètes catholiques à corriger un petit peu leur tir. Bon, là aussi, c'est une histoire passionnante. Voilà. Bon, entre parenthèses, je laisse de côté les exégètes protestants et juifs, quelle que soit l'importance de leur rapport. Par exemple, Paul Ricoeur a bien étudié la distinction entre exégète confessante, exégète scientifique, mais ma perspective est celle du christianisme médiéval. Or, alors, l'approche positiviste du 19e et du début du 20e siècle avait radicalement dissocié les deux types d'exégèse. Or, au 13e siècle, alors là, c'est extrêmement important, il n'y a aucune opposition. La critique textuelle, alors, on dit, oui, c'est une invention du 19e siècle, dans le meilleur des cas, du 16e siècle, mais bon, non. On trouve la critique textuelle très couramment au Moyen-Âge, au 13e siècle notamment, et elle participe de ce mouvement d'élucidation de la parole divine. Le fait de considérer le texte biblique comme un objet d'étude, impliquant donc une certaine distance par rapport à lui, et cela n'empêche nullement d'en faire la source d'une pensée et la source d'une action, d'une conduite. On peut très bien faire pendant toute sa vie la critique textuelle de la Bible et en même temps pratiquer les préceptes de l'Évangile ou du Décalogue. C'est vrai, il n'y a pas d'opposition au XIIIe siècle. Il commence à ne plus y en avoir de nos jours. Bon, mais bon, là aussi, c'est un gros problème. Alors, bien entendu, cette caractéristique, donc exégèse confessante plus exégèse scientifique, se retrouve chez les exégètes franciscains. Par exemple, Bonaventure, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, n'hésite pas à se servir des structures de la pensée aristotélicienne pour mieux comprendre certaines caractéristiques de l'écriture. Ah, moi, je suis toujours frappé quand je lis les commentaires de Saint Bonaventure. Il n'arrête pas de citer Aristote. J'ai l'impression qu'il cite plus Aristote que les pères de l'Église. Enfin, mais c'est intéressant. Aristote est considéré au XIIIe siècle comme le philosophe par excellence, dont les principes sont éminemment vrais, même si, bien entendu, beaucoup de ses idées sont en contradiction avec les affirmations majeures du christianisme, à commencer par l'éternité du monde. Voilà. En dehors de ce fait général, je vais essayer de décrire rapidement les traits majeurs de cette exégèse médiévale que partagent, je le répète, les exégètes franciscains. Alors tout d'abord, la structure du commentaire. L'enseignement universitaire impose au commentaire un schéma particulier. Le commentaire comprend trois parties. La divisio textus, sur laquelle je vais revenir, l'expositio textus, qui explique les difficultés du texte, les questiones, appelées également dubitabilia ou dubia, donc les points douteux, qui s'attachent aux problèmes, notamment doctrinaux, posés par le texte commenté ou aux difficultés que présente l'exégète courante, notamment celle de la glose ordinaire. Les questiones des commentaires ne sont pas des questions scolastiques développées proprement dites, mais elles en adoptent le schéma d'une manière ramassée. Exposer de la difficulté sous forme d'une question, réponse A, la thèse, réponse B, l'antithèse, solution du maître, réponse aux arguments opposés. Alors, je trouve que c'est le meilleur schéma pédagogique qui existe. Ce que nous avons appris en classe de philosophie de notre temps, thèse, antithèse, synthèse, s'efface totalement par rapport à cela. C'est vraiment ce schéma, énoncer la question, argument A, argument B, solution. C'est A ou c'est B, hein, donc et là on ne dit pas « Ah oui, on peut rejoindre les opposés en vertu de telle et telle chose », mais surtout, et ça c'est le plus intéressant, on dit « Pourquoi il y a eu des arguments B, des arguments opposés à ma thèse ?» La responsio du maître. Et ça c'est passionnant. Bon, enfin, mais ne nous attendons pas là-dessus. On a aussi le schéma suivant, notamment dans les Dubitabilia, un verset ou un lemme est recopié, contra est cité un autre verset ou une opinion dogmatique qui semble s'opposer au premier. Responsio, c'est la solution du maître qui comporte la résolution de l'opposition. La richesse de cette partie questionnaire est évidente. Pour nous, les moins, la première phase, divisio textus, qui divise l'ensemble d'un livre, puis la péricope, objet de la leçon, et enfin le verset lui-même. Alors évidemment, ceux qui me connaissent savent que c'est un dada chez moi et que je fais constamment l'éloge de la divisio textus. Nous assimilons cela souvent au plan de texte, qui était l'un des exercices que nous imposaient nos professeurs de littérature. Vous avez une fable de La Fontaine, faites-en le plan. Mais cela est très différent. La divisio textus ne donne pas un plan type, mais divise le livre, la péricope ou le verset selon des options herméneutiques précises qui constituent en elles-mêmes une exégèse. Plusieurs commentaires des petits prophètes de Pierre de Jean Haulieu sont des divisionnaires accompagnés d'une rapide explication. Mais cela n'enlève rien à leur richesse et à leur intérêt exégétique. On distingue des divisionnaires qui concernent de grands ensembles, un livre entier ou une série de chapitres, et ce que j'appelle des micro-divisions, un verset. Voici par exemple la divisio d'ensemble que Pierre de Jean Haulieu donne de la Genèse. Je résume son texte. Il y a quatre parties majeures dans la Genèse, dont trois concernent la propagation du peuple de Dieu d'après les trois patriarches. La première partie, création du monde, destitution causée par la chute du premier homme, est la racine qui donne leur unité radicale aux trois autres parties. La deuxième concerne le cours général de l'humanité jusqu'au déluge au chapitre 6. La troisième concerne la descendance des fils de Noé jusqu'à Abraham, Genèse 11, 27. La quatrième traite du déroulement des trois pères à qui fut enfin donnée la loi et qui furent par la circoncision distincts des autres nations et pour lesquels commencèrent à être faites explicitement les promesses relatives au Christ. Divisionner un texte, engagement herméneutique total. Importance de la première partie, le centre de l'écriture, c'est le Christ. On voit comment la divisio oriente immédiatement l'exégèse, notamment avec l'importance accordée au premier chapitre de la Genèse. D'une manière générale, les divisio textus, souvent sautés par ceux qui lisent les commentaires médiévaux, c'est ce que je faisais moi-même jusqu'à il y a 10 ans, parce que on vous dit, la première partie se compose de 2 parties, la première partie de la première partie se compose de 3 parties, la première partie de la troisième partie se compose de x parties. Bon, on se dit c'est un petit peu rasoir. Mais effectivement, mais c'est encore une fois la différence entre le XIIIe siècle et notre époque. À notre époque, on lit des traités de philosophie. Dans les traités de philosophie, tout est expliqué. Alors évidemment, il faut comprendre les mots, réfléchir à ce qui est dit. Au XIIIe siècle, on vous donne une matière brute et vous devez vous débrouiller avec. C'est le cas des divisio textus. Alors pourquoi y a-t-il ces divisio textus? Le parchemin coûte cher au XIIIe siècle. Alors pourquoi va-t-on gaspiller du parchemin pour mettre des choses? Il y a une raison. Alors effectivement, et quand on prend le temps de comprendre le pourquoi de ces divisiones, on est émerveillé. Alors je vais citer un exemple qui est, ça c'est, excusez-moi, donc c'est ma passion pour la divisio textus qui l'emporte. Alors là, pardon, hein, mille pardons, je vais citer un dominicain du XIIIe siècle. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que ce soit un texte dominicain. C'est attribué à un certain Guillaume Dalton, mais mon étudiante Timothy Bellama, qui est dominicain lui-même, a montré que cette identification est fausse. Alors donc c'est dans le récit de la création de l'homme et de la femme. Alors je vais résumer très rapidement. La division est faite de telle manière qu'il y a une série de cercles concentriques qui aboutissent au fait que Adam parle à Ève. Et le fait de cette parole, de ce dialogue, par rapport à tout ce qui est dit avant et après, montre qu'effectivement, dans la relation humaine, dans la relation entre un homme et une femme, la chose fondamentale, c'est le dialogue. Ça, c'est la divisio textus qui nous le dit. Évidemment, si on lit troisième partie, ceci, cela, sans réfléchir. Autre exemple de la présence active du lecteur, hein, donc le lecteur du XIIIe siècle est un lecteur actif. Alors, vous avez des raisonnements extraordinaires qui sont donnés dans des commentaires bibliques, dans des œuvres théologiques, etc. Alors, vous avez des arguments pour, des arguments contre. Un enchevêtrement très complexe, et ça se termine par ergo, virgule, etc. Quoi donc, etc. Ah ben évidemment, parfois c'est très clair, mais parfois, effectivement, ça va vous obliger à relire tout le texte, à dire pourquoi a-t-il donné cet argument, pourquoi a-t-il donné celui-ci, à dire en effet, la conclusion, c'est moi qui l'a défini, moi, lecteur du XIIIe siècle, donc, et moi, lecteur du XXIe siècle. Voilà, donc c'est une lecture active. Voilà, donc ça c'était l'éloge de la divisio textus. Même si la leçon d'écriture sainte comportait ces 3 parties, rares sont les commentaires dans lesquels la tripartition, alors divisio, expositio, questionnaire, soit régulièrement appliquée, mais c'est le cas dans ceux de Saint Bonaventure. Alors un autre de mes dada, si vous voulez bien. Alors, si la divisio textus implique une approche objective du texte scripturaire, la critique textuelle est une manifestation nette de l'esprit scientifique de l'exégèse médiévale. Il est très remarquable de constater que beaucoup de commentaires, y compris ceux qui sont considérés comme plus proprement spirituels, contiennent des remarques techniques sur le texte. C'est le cas chez Pierre de Genlieu. Hein. Le spirituel dans le spirituel, eh ben, il y a de la critique textuelle dans les commentaires de Pierre de Genlieu. Mais cette approche est systématisée dans des œuvres spécifiques que l'on appelle des correctoires et qui sont des recueils de remarques de critiques textuelles. Un mot très rapide pour expliquer l'épanouissement de ce genre au XIIIe siècle. Avec la naissance de l'université et la multiplication des structures d'enseignement, s'imposait la nécessité de disposer d'un nombre suffisant de textes objets de l'étude, notamment de la Bible. Les libraires, notamment parisiens, sont mis à contribution et se développe alors une production quasi-industrielle du livre avec le système de la Pescia, donc qui consiste à découper un livre en plusieurs cahiers, de confier à X copistes le même texte, donc ça avance plus vite, donc c'est le béaba de la production industrielle, hein, donc je crois. Mais les textes recopiés ne sont pas contrôlés et à la base, hein, donc les copistes sont parfaits, hein, ce n'est pas des problèmes d'erreur de copie, hein, c'est autre chose, alors, ils ne sont pas contrôlés, hein, non. À la base, et le résultat est un produit que l'on peut considérer parfois comme médiocre. Alors 40 ans plus tard, Roger Bacon, n'est-ce pas Micheline, qui est un autre grand franciscain du XIIIe siècle, comme vous le savez, se plaindra que ce travail ait été fait par des libraires à la courte vue, analphabètes et mariés de surcroît. Quoi qu'il en soit, les dominicains réagissent les premiers et Hugues de Saint-Cher compose le premier correctoire à Saint-Jacques, à Paris. Dans le même couvent seront confectionnés trois autres correctoires au cours du siècle, entre 1260 et 1280, dont celui qui accompagne la fameuse Bible de Saint-Jacques. Les franciscains réagissent un peu plus tard, mais avec le chef-d'œuvre qu'est le correctoire de Guillaume de Marat. Alors voilà, un personnage que vous ne connaissez peut-être pas très bien, donc c'est un franciscain également. Correctoire est rédigé vers 1265. Guillaume de Marat, qui est l'un des rares contemporains qui échappe aux critiques cinglantes de Roger Bacon, semble avoir été un hébraïsant et un helléniste accompli. Alors, pour être moins abstrait, je donnerai un exemple. La note, relativement longue par rapport aux autres, de Guillaume sur Michée 7.1, hein, l'un des petits prophètes, texte difficile que la Tobe rend ainsi, « Mais pas une grappe à manger, pas un de ces fruits précoces que j'aimerais tant. » Bon, qui traduit à peu près le texte massoriquite. En eschkol l'erol, bon, pas de grappe à manger. Bikura aveta nafshi. Alors, donc, c'est le terme dont va parler Guillaume de Marat. Désir de mon âme. La Vulgate avait traduit. Non est botrus ad comedendum. Bon, il n'y a pas de grappe à manger. Alors, c'est la precoquas ficus desideravit anima mea. Mon âme a désiré des figues, alors, pas mûres. Precoquas, voilà. Alors, voici ce que dit ce que dit Guillaume de Marat. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais le lire d'abord en latin. Et je le lirai après, parce que, bon, évidemment, là, ça ne peut être qu'en latin, mais je vais traduire immédiatement. Bon, je vais traduire pas immédiatement, je vais traduire phrase par phrase. Antiqui. Alors, les manuscrits anciens. Immaturas ficus desideravit anima mea. Alors, je vous rappelle, donc, la Vulgate disait précoquas. Donc, les manuscrits anciens disent des figues non mûres. Hein. Immaturas a désiré mon âme. Les nouveaux manuscrits, enfin, les manuscrits récents disent précoquas. Hébrei, donc les manuscrits hébreux. Primitiva, vel primogenita. Effectivement, c'est exactement le sens les deux sens du terme hébreu, béhor, qui veut dire le premier-né, ou bien un fruit à son origine, en quelque sorte. Quam, alors là, je n'ai pas cité le texte grec, mais enfin, Guillaume le connaît, et vestigio sequitur grecus, que suit à la trace, je peux dire, que suis mot à mot le grec, nec intentionem faciunt de ficubus. Et ils ne font pas mention de figue. Pas question de figue dans ce texte-là. Unde ascensum patet et se translationem. C'est pourquoi il apparaît que la traduction de la Vulgate, sous-entendu, est faite selon le sens. Proter hoc litera antiquorum approponda. Et pour cela, il faut approuver le texte des anciens. Glossa etiam est prima litera quae dicit immatura satem. Donc de même, la glosse utilise le même texte que les manuscrits anciens. Alors, la fidélité aux anciens manuscrits est caractéristique de Guillaume de Marat, qui semble se différencier des correcteurs dominicains moins conservateurs. Mais cela ne retire rien à la valeur de son correcteur. Enfin, et là donc, vous avez vu la méthode. On compare des manuscrits d'âge différents, antiqui novi, les manuscrits anciens, les manuscrits récents. On confronte cela au texte hébreu, grec ou araméen, et donc on fait les. Alors, Un autre correctoire franciscain est confectionné à la fin du siècle, du XIIIe siècle donc, celui de Gérard de Huy. Extrêmement ramassé, il donne même un code pour faciliter sa lecture. Il semble plutôt rassembler les données fournies par les correctoires précédents. Mais il fait précéder son ouvrage d'une préface très importante. Parmi les éléments les plus remarquables, on y trouve une présentation des traductions grecques de l'Ancien Testament. Alors si je vous demandais, vous, quelles sont les traductions grecques de l'Ancien Testament, à part la Septante, vous serez peut-être un petit peu embarrassé. Donc, mais là, nos franciscains savent cela. La Septante, bien sûr, Aquila, Symmaque, Théodotion, la Quinta. Ah. Et il mentionne également, en citant Origène, la Sexta et la Septima. Donc vous verrez les introductions aux traductions grecques de l'Ancien Testament pour voir la Sexta et la Septima. Donc ça me paraît époustouflant. Alors il donne également, donc le même Gérard de Huy donne une typologie des fautes, additio, donc les additions, substractio, les omissions, mutatio, les changements, divisio, alors division de mots. Un mot est coupé d'une manière incongrue ou au contraire, conjunctio, deux mots sont collés alors qu'ils ne doivent pas l'être. Typologie qui n'a rien à envier à celle de nos modernes traités de critique verbale. Nous sommes loin de l'ignorance proclamée par saint François, mais nous sommes toujours au cœur d'une démarche d'approfondissement de l'écriture, dirais-je aussi, je parle de critique textuelle, d'une connaissance amoureuse. Oui, même dans ces notes si humbles et si austères, on respire une volonté passionnée d'entrer encore plus dans le texte biblique, dans une parole de Dieu considérée comme vivante. Alors, autre caractéristique, de combien de temps dispose-je ?
10 minutes.
D'accord. Alors, je vais aller très vite. Non, alors, un quart d'heure, d'accord. Alors, autre caractéristique de l'exégèse du Moyen-Âge, donc c'est la connaissance de l'hébreu. Alors, il n'y a pas énormément d'hébraïsants au XIIe, XIIIe siècle, mais à partir du XIIe siècle, une évolution se fait dans laquelle bon, le recours à l'hébreu, au texte hébraïque, donc au texte massorétique de la Bible, apparaît nécessaire. Cela se fait au XIIe siècle par l'intermédiaire de juifs, donc qui vivent dans les mêmes villes que les savants chrétiens, donc sont des échanges qui sont faits, donc les juifs traduisent la Bible, et ils donnent également les traits principaux de leur interprétation de l'Ancien Testament. Le mouvement se poursuit et se développe au XIIIe siècle, et là, bon, il va y avoir d'une part un certain nombre de juifs convertis qui vont assurer le relais, mais rapidement, d'abord chez les dominicains, puis, semble-t-il, plus tard chez les franciscains, donc dans certains studias, notamment en Espagne, se met en place un enseignement de l'hébreu, du grec, de l'arabe. Voilà. Alors, bon, voilà. Alors, chez les franciscains, il y a un personnage qui a une importance fondamentale, c'est Nicolas de Lyre. Nicolas de Lyre, donc, est né vers 1270 dans le village de Normandie qui s'appelle aujourd'hui la Neuve-Lyre. Bon, et il est mort en 1349. Il a été maître à l'université de Paris, provincial de France, puis de Bourgogne. Il a rédigé un commentaire sur l'ensemble de la Bible qui est devenu un commentaire standard que l'on continue à utiliser au XVIIe, voire au XVIIIe siècle. Bon, là, je ne vais pas développer ça parce qu'il y aurait des choses intéressantes à dire. Bon. Alors, Nicolas de Lyre renouvelle l'exégèse par un recours systématique à l'hébreu et surtout à la littérature rabbinique. En effet, il y a un avant Nicolas de Lyre et un après Nicolas de Lyre. Après Nicolas de Lyre, les commentateurs chrétiens vont se sentir obligés de citer au moins sur certains livres, sur certains versets, l'exégèse juive ou l'hébreu du texte massorétique, ce qu'ils font, non pas parce qu'ils sont des hébraïsants eux-mêmes, mais parce qu'ils lisent l'apostille de Nicolas de Lyre. Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, chaque page ou presque, alors là aussi, c'est un truc amusant, chaque page ou presque de l'apostille, c'est ainsi que s'appelle son commentaire, sur l'Ancien Testament, comporte une référence à Ra-Sa. Rassa, c'est l'abréviation de Rabbi Salomon. Rabbi Salomon qui désigne Rashi, qui est un exégète troyen, qui est mort dans les années 1140, donc, et qui a composé l'équivalent de la Glossa Ordinaria, un commentaire donc standard de l'Ancien Testament. Donc, alors, Nicolas de Lyre le cite constamment, mais il ne cite pas que Rashi. Il utilise également, alors d'une manière très abondante, et ça on ne l'a pas assez remarqué, le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne de la Bible, et la littérature rabbinique ancienne, le Talmud, les Midrashim, etc. Alors, au séminaire que j'ai donné donc mardi dernier, effectivement, j'ai cité à propos de l'exégèse de l'histoire de Sodome et Gomorre un texte de Nicolas de Lyre, le texte de Nicolas de Lyre, dans lequel il cite, alors il ne le dit pas comme cela, bon, il ne pourrait pas, il dit que, alors, dans ce texte de la Genèse, il est question du cri de Sodome, et l'hébreu emploie un féminin singulier, alors qu'on s'attendrait à trouver un pluriel, soit qu'il s'agisse de Sodome et Gomorre, ou des autres villes, etc., soit qu'il s'agisse des habitants de ces villes. Or, on a son cri à elle, a été extraordinaire, etc. Nicolas de Lyre l'explique en disant, c'est le cri d'une fille, d'une jeune femme, qui a été qui a été mise à mort d'une manière singulière. Et là, c'est le traité talmudique Sanhedrin, page 109b, où il est question, bon, de ceux qui n'auront pas droit au monde futur, etc. Parmi les gens qui n'auront pas droit au monde futur, ce sont les habitants de Sodome, parce qu'ils avaient édicté une loi qui interdisait à tout habitant de Sodome de donner à manger aux pauvres. Alors, quand un pauvre venait chez eux, il leur donnait une pièce de monnaie. Ah, ça c'est bien ça. Mais ils ne donnaient pas de nourriture. Donc, alors, au bout de peu de temps, le pauvre mourait de faim. Sauf un, donc, qui est resté vivant. Alors, les habitants de Sodome sont aperçus, effectivement, qu'une femme transportait dans son panier du pain pour cet homme-là, et ils l'ont condamné. Alors, donc, selon certains textes, ils ont mis du miel sur elle et des abeilles sont venues la dévorer. Voilà, voilà la mort singulière. Donc, Nicolas de Lyre cite ce texte-là. Voilà, c'est un exemple, il y en a énormément, donc il y en a pas mal dans ce... Bon. Voilà, donc Nicolas de Lyre est également l'auteur d'un texte extrêmement intéressant qui s'appelle « Traité sur la différence entre la lettre hébraïque, entre le texte hébraïque de la Bible et notre traduction, celle de Saint Jérôme, la Vulgate, qui est magnifique. » Bon, mais je n'ai pas discuté de cela. Donc il y a d'autres hébraïsants dans l'ordre, notamment au XIVe siècle. Bon, le plus important est peut-être Thomas Docking, hein, donc qui est un anglais un peu moins connu. Mais il faut également souligner le rôle d'un autre franciscain qui est connu, mais qui n'est pas un exégète, c'est Raymond Lull. Raymond Lull était un casse-pied de première catégorie, qui a fait les choses les plus improbables, comme aller prêcher l'évangile en terre musulmane. Bon, c'est comme si effectivement l'État islamique actuel dans Daesh avait prêché l'évangile. Et bon, il a fait ça. Et bon, Dieu, bon, il est revenu après avoir été bastonné de la manière, enfin, il n'a pas été tué. Donc déjà, différence importante. Enfin, quoi qu'il en soit, bon, c'est un casse-pied parce qu'il a constamment obligé les papes à créer des chaires de langues anciennes, hébreu, grec, arabe. Donc, c'est grâce à lui que, effectivement, au Concile de Vienne, on a décidé la création de chaires de ces langues-là dans les universités et au siège de la Cour. Alors, il aurait fallu également que je parle des principes herméneutiques. Alors, je vais être extrêmement bref et plutôt citer des textes à ce sujet. Donc, c'est normalement le plus important. Bon, là, la connaissance de l'hébreu, la critique textuelle, bon, sont quand même des détails, mais ce sont des détails que j'ai tenu à mettre en valeur parce qu'ils montrent justement ce caractère scientifique de l'exégèse médiévale, de l'exégèse du XIIIe siècle. Alors, là, nous allons entrer dans quelque chose d'un petit peu différent, donc on est plutôt dans l'exégèse confessante. Alors, premier principe, l'écriture est la parole de Dieu dans les mots de l'homme. Ça, c'est très important. Constamment, les commentateurs du Moyen-Âge font des remarques là-dessus. Alors, il y a un texte qui me paraît magnifique de Pierre de Jean Aulieu, encore lui, qui est traduit toujours dans le supplément. Alors, c'est le texte, numéro 76, page 88-89. Voilà, c'est dans le commentaire de Genèse 2,19. Dieu fit venir devant Adam tous les animaux pour voir comment il les appellerait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que Dieu a besoin de savoir comment Adam va nommer les... Alors, mais est-ce que Dieu ne savait pas cela d'avance? Et est-il possible qu'il apprenne quelque chose, que Dieu apprenne quelque chose à partir de nos actes? Ah, voilà une phrase magnifique. Il faut dire que l'Écriture use souvent d'une telle manière de parler. En effet, elle parle de Dieu à la manière humaine, comme une mère qui gazouille avec ses bébés pour leur apprendre ainsi progressivement à parler. Ah, j'ai jamais vu une expression aussi belle. Alors donc là, j'ai traduit balbutiens, hein, gazouille. Hein, j'ai pas trouvé de balbutie, c'est pas très beau en français. Donc il m'a semblé que gazouiller était bien. Donc c'est donc la maman qui va dire à son bébé, oh mon bébé, prends ce bon coco, des choses de ce genre-là. Donc c'est de cette manière-là. Mais effectivement, nous le texte que nous avons, c'est comme nous étions des bébés. Et donc c'est à nous d'aller au-delà de ça et d'aller jusqu'à la véritable fondamentale. Autre point fondamental de l'exégèse médiévale, la richesse infinie de cette écriture. Bon, il y a un livre célèbre qui s'appelle précisément L'interprétation infinie. Alors donc c'est la fameuse histoire des quatre sens de l'écriture. Hein, donc il y a le sens littéral, le sens allégorique, le sens anthropologique ou sens moral, le sens anagogique. On rapporte cela à la fin des temps. Mais en réalité, ce n'est pas toujours opératoire. Donc c'est l'opposition paulinienne qui prévaut essentiellement opposition entre la lettre et l'esprit, ce qu'on a vu rappelé par Saint François tout à l'heure. Bon, alors je ne vais pas lire de texte là-dessus, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même, alors je reviens encore décidément à ce Pierre de Jean Heulieu qui est inépuisable. Alors, j'ai essayé de montrer dans un certain nombre d'études que avec Pierre de Jean Heulieu, on avait une évolution extraordinaire dans l'évolution. Alors, bon, dans une première série de travaux, j'ai montré que les quatre sens de l'écriture, c'était... Bon, alors tout le monde le disait parce que c'était dogmatique. Bon, il y a les quatre sens, mais même chez Bonaventure, il y a un passage sur les quatre sens de l'écriture, et vous allez voir, ce ne sont pas les fameux quatre sens si bien étudiés par de Lubac. Hein, mais, alors, j'essaye... J'ai montré dans une étude, mais c'était assez imparfait comme démonstration, j'essaye de montrer que Pierre de Jean Heulieu va dépasser l'opposition entre l'être et esprit, avec une image qui est tout à fait extraordinaire. Alors, ah oui, tiens, j'avais pas prévu ça, mais je vais le faire. Parce que généralement, je le fais d'une manière abstraite. Alors, voilà, donc, un diapason. Alors, vous allez entendre une note. Je ne sais pas si au fond de la salle on l'entend parce que le son est très élevé. Mais c'est la même chose si vous jouez une note au piano. Vous allez entendre effectivement d'une manière dominante le « la ». Le diapason donne le « la ». Mais vous allez entendre également, enfin si vous prêtez attention et notamment avec un piano, vous allez entendre tout un autre ensemble de notes qui se superposent qu'on appelle les harmoniques. Donc, ça c'est bon, c'est un truc de musique qui est très, très caractéristique. Et il se trouve que Pierre de Jean Heulieu emploie cette image-là des sons harmoniques pour expliquer l'expansion du sens de la lettre au sens spirituel. Et de même que dans le son harmonique, donc, il n'y a pas de rupture. Ça, moi, mon grand problème dans l'exégèse médiévale, c'est ce que j'ai appelé le saut herméneutique. Saut, S-A-U-T, bien entendu. Un tel point que je suis en train de me demander si on ne devrait pas plutôt parler de moi en parlant d'un saut S-O-T herméneutique. C'est-à-dire le passage, le saut herméneutique, c'est le passage de la lettre à l'esprit. Il est inexpliqué chez la plupart des commentateurs. Pierre de Jean Heulieu nous donne cette explication, enfin cette image qui est absolument remarquable du son harmonique. De même, effectivement, la lettre, on a la lettre de la Bible, c'est la fondamentale, ce qu'on appelle en fondamentale, et puis tous les autres sens. Il peut y en avoir quatre. Il peut y avoir beaucoup plus, hein, puisque les sons harmoniques, avec une oreille extrêmement exercée, ça se multiplie. Hein, donc, alors, selon des règles précises, donc, ce sont tous les autres sens de l'écriture. Voilà. C'est ce que nous dit Pierre de Jean. L'autre principe, évidemment, fondamental, c'est le fait que le Christ est au centre de l'écriture. Alors là, comme c'est un thème extrêmement important, je vais peut-être lire juste un passage, encore une fois de Pierre de Jean Hulot, et je suis désolé d'avoir... Ah bon non, je vais lire alors cette fois peut-être Antoine de Padoue. Allez, pour changer, Antoine de Padoue, donc un texte. Alors c'est à propos de l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez donc dans la Genèse, Jacob s'endort et voit une échelle sur laquelle descendent des anges. Hein, montent et descendent, et pas descendent, et montent des anges. Voici donc ce que nous dit... Antoine de Padoue sur ce texte-là, espérant que je ne me suis pas trompé, page 11, numéro 11, voilà. Il faut observer que cette échelle a deux montants et six échelons qui facilitent la montée. Cette échelle signifie le Christ. Les deux montants sont la nature divine et la nature humaine. Les six échelons sont son humilité et sa pauvreté, sa sagesse et sa miséricorde, sa patience et son obéissance. Il fut humble en recevant notre nature humaine. Quand il regarda l'humilité de sa servante, vous avez tous reconnu Luc, bien sûr, là-dessus, il fut pauvre dans sa nativité dans laquelle la pauvre Vierge, accouchant du Fils de Dieu, n'avait où se coucher. Il fut sage, il fut miséricordieux, il fut patient. Il faut obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Cette échelle se tenait sur la terre, puisqu'elle était soutenue par la prédication et les miracles. Elle touchait le ciel, puisque, comme le dit Luc, le Seigneur passait toute la nuit dans la prière. Voilà. Donc, ce passage qui, a priori, n'a pas de rapport direct avec le Christ, qui n'est pas généralement interprété comme d'une manière christologique, là, est appliqué par Antoine de Padoue, pardon, au Christ. Voilà, il n'y en a plus que pour 5 minutes. Tout ce dont nous venons de parler est commun à l'ensemble de l'exégèse du XIIIe siècle, sauf peut-être la connaissance exceptionnelle que Nicolas de Lire manifeste de la littérature rabbinique. Certes, le dominicain Raymond Martin connaît encore mieux les textes hébreux et arabes, mais ses œuvres sont polémiques et non exégétiques. Est-il possible de distinguer des traits qui seraient expressément franciscains dans l'exégèse des franciscains? Il semble que oui, et je les expose dans le supplément. Je les rappellerai brièvement ici, mais d'une manière critique. J'avais mis dans le supplément, au nombre de ces traits, la centralité du Christ. Il me semble que c'est encore un caractère général de l'exégèse chrétienne du Moyen-Âge dans son ensemble, même si la sensibilité franciscaine et la fidélité aux idées de saint François donnent une couleur particulière à ce thème. Mais le texte que je viens de citer d'Antoine de Padoue aurait très bien pu être écrit par un autre maître du début du XIIIe siècle, pas spécifiquement franciscain. On peut aussi se demander dans quelle mesure les commentaires des passages bibliques concernant la pauvreté reçoivent une inflexion spéciale chez les exégètes franciscains. Là encore, j'ai cité dans le supplément des textes qui ne me paraissent pas avoir maintenant une coloration franciscaine. Et je ne crois pas avoir lu, par exemple, dans les commentaires du passage des Actes 2, 44-47, sur la communauté des biens, de prise de position qui rappellerait les disputes internes à l'ordre dès la fin du XIIIe siècle sur l'usus pauper. Alors effectivement, tous vont expliquer que les biens étaient en commun dans la première communauté, mais dans ce que j'ai lu, enfin je n'ai pas tout lu, bien sûr, moi il ne me semble pas qu'il y ait une réactualisation par rapport aux querelles actuelles à ce moment-là. Mais là, un examen plus complet des textes est nécessaire. Reste donc deux caractères spécifiques. Le premier est la référence à saint François qu'on trouve chez beaucoup d'autres auteurs. Je citais dans les cahiers Alexandre le Minorite, Bonaventure, Pierre de Jean Hulot et même Nicolas de Lire, dont la postille est généralement imperméable aux fluctuations de l'histoire. Le texte cité nous permet justement d'identifier le second caractère spécifique de l'exégèse franciscaine. Alors le texte le cité de Nicolas de Lire est un commentaire de l'Apocalypse. Son implication, alors là c'est je crois très important, l'implication du commentaire dans le déroulement de l'histoire de l'Église, souvent influencé par la pensée de Joachim de Fiore. Donc un penseur, lui, du début du XIIIe siècle, qui a eu une importance majeure, notamment sur les spirituels franciscains, mais pas seulement. Il s'agit ici d'un thème extrêmement important que je ne fais que mentionner, la division de l'histoire en un certain nombre de périodes, 7, avec très souvent des considérations eschatologiques et le rôle conféré aussi bien à Saint François qu'aux frères mineurs en général, alors incluant également, fréquemment, Saint Dominique et les prêcheurs. Évidemment, cela est particulièrement sensible dans les commentaires de l'Apocalypse, relativement nombreux chez les franciscains. Bonaventure avait identifié dans la légende d'Amaior l'ange qui s'élève à l'Orient en Apocalypse 7.2 en y voyant Saint François. Alors, juste encore un dernier texte que je lirai rapidement, mais là c'est vraiment intéressant. Donc c'est Saint Bonaventure, la légende d'Amaior, page 581. De mon livre. Voilà pourquoi l'on peut affirmer à juste titre que c'est lui, Saint François, qui est représenté par l'ange qui s'élève à l'Orient et qui porte le signe du Dieu vivant dans la prophétie véritable de cet autre ami de l'époux, Jean l'apôtre et l'évangéliste. Après la rupture du sixième sceau, j'ai vu monter de l'Orient le deuxième messager porteur du signe du Dieu vivant. Alors cette identification n'est pas reprise par tous les commentateurs postérieurs. Alors donc c'est effectivement il n'y a pas d'exégèse dogmatique, notamment chez les franciscains. En revanche, tous les commentateurs, y compris Nicolas de Lyre, parlent de Saint François à propos du chapitre 20 de l'Apocalypse. Cette préoccupation eschatologique apparaît beaucoup moins dans les autres livres bibliques, même chez un Pierre de Jean Hollieu. Peut-on alors parler d'une exégèse spécifiquement franciscaine? La question se pose. Comme l'exégèse dominicaine, l'exégèse des franciscains est devenue une exégèse savante, attentive au texte, mais aussi à ses dimensions spirituelles. Souvent teintée d'une coloration, à vrai dire, indéfinissable et pas immédiatement repérable, pour plusieurs commentaires anonymes ont été proposés des identifications d'auteurs aussi bien dominicains que franciscains. Elle est quand même l'un des éléments qui contribue à la richesse de l'exégèse chrétienne du XIIIe au XIVe siècle. J'espère aller plus loin dans ma quête, et je ne vous ai présenté ici qu'un panorama global qui a passé sous silence certains représentants importants de cette exégèse franciscaine, comme Alexandre de Halès, Jean de La Rochelle, Guillaume de Méliton ou Matthieu d'Aquasparta. Alors c'est encore souligné l'importance de l'apport des frères mineurs à notre connaissance de l'Écriture. Merci de m'avoir écouté.